Donc, nous entamons la quatrième Mishnah du Perkei Avot, et elle commence comme ça. Yossé ben Yoézer Ishsreda, un très grand rab qui s'appelait Yossé ben Yoézer Ishsreda, ve Yossé ben Yochanan Ish Yerushalayim, donc les premiers Zougot, on est juste au début, on est vraiment les premiers Tanaïm, puisque le premier Tana, c'est Shimon HaTzadik, après son disciple, c'était Antigonus, et là, on est dans donc, deux générations, donc on est en, à peu près... vraiment très très avant Rabbi Akiva, 300 ou 400 ans avant, on est à peu près aux alentours des 300 ans avant l'ère vulgaire que l'on connaît. Donc, Yosef ben Yoézer, Ish Sreda, ve Yosef ben Yochanan, Ish Yerushalayim, Kiblu Mehem, ils ont reçu de Shimon HaTzadik et de Antigonus, Ish Sukko, et as Yosef ben Eliezer ish sreda omer, il disait yé betecha beit vad lechachabim, que ta maison soit une maison de réunion des sages. Première chose, que ta maison soit une maison de réunion des sages d'Israël, des talmidei chachamim, des grands initiés, des rabbins. Deuxième, qu'est-ce qu'il disait encore? Veheve mitahavek be'afar aglehem, et que tu te colles à la poussière de leurs pieds. Deuxième chose. Veheve shoté, et sois aussi assoiffé. Shoté betzama, ça veut dire sois assoiffé, et bois leurs paroles avec un grand désir, les paroles des sages. Donc il dit trois choses. Un, que ta maison soit une maison de réunion des sages. Deux, que tu te dovec, ça veut dire que tu te colles à la poussière de leurs pieds. Trois, que tu bois leurs paroles avec un immense désir. Alors, bon, on va essayer d'expliquer rapidement cela. Alors, tout d'abord, la première chose, que ta maison soit une maison de réunion des sages. C'est-à-dire qu'ici, on nous met en garde, d'emblée, il faut bien voir que c'est les premières Mishnah pratiquement, et plus on est au début, plus c'est fondamental. Qui nous disent qu'il faut se méfier d'une façon d'habiter son espace privé. En d'autres termes, il y a, surtout pour nous, Européens, Occidentaux, qui vivons en Europe ou en Occident, il y a une tradition d'une coupure entre la vie privée et la vie publique. Où la vie privée, plus ou moins je peux faire ce que je veux. Plus ou moins, du moment que ça ne sort pas contre la loi, du moment que je fais ce que je veux, c'est en public, je dois me comporter comme quelqu'un qui tient son rang. En privé, je peux enlever, faire ce que je veux, me déshabiller, chanter, crier, il n'y a aucun problème. Je suis en privé. Vient ici la Mishnah nous dit la chose suivante. Elle nous dit, fais très attention que ta maison, ton intériorité, ton côté privatif, ta vie privée, ne soit pas en rupture avec la Torah. Parce que ça serait reproduire un rapport à la loi de la Torah avec la loi de la société. En d'autres termes, dans un système légal, législatif, non toraïque, non juif, la loi, elle s'applique principalement, à part pour des cas extrêmes, principalement dans l'espace public. Puisque la loi est faite pour régir et organiser les rapports de la cité, des hommes. Et donc, il y a une tendance naturelle qu'à l'intérieur de mon chez-moi, dans mon espace privé, j'envoie balader la loi et je laisse aller, je libère mes instincts animaux ou je fais ce que je veux. Vient cette Mishnah nous dit attention, l'habitacle, là où tu habites, ne doit pas être un lieu de rupture avec la loi de la Torah. Parce que la loi de la Torah, c'est pas une loi sociale. C'est pas une loi pour que les gens vivent bien ensemble. C'est une loi qui est là pour ériger, élever l'homme au niveau de la sainteté. Or, c'est principalement dans l'espace intime, privé, dans ta maison, que peut s'acquérir des dimensions de sainteté. Et donc, on nous dit, si tu veux sanctifier ton espace privatif, introduis-y l'intelligence des sages. Ouvre ta maison à des cours de Torah. Ouvre ta maison, invite des éminents initiés talmudiques. Fais que ta maison soit le lieu d'une apparition spirituelle. Par cela, tu éviteras le piège de considérer ta maison comme un endroit qui te dispense de la loi divine. D'ailleurs, on retrouve cette même idée dans les tzitzit. La notion que le tzitzit est à la limite, à la frontière de la chair corporelle et de l'extérieur. C'est à l'intérieur même, en dessous de ses vêtements, les tzitzit qui sont les nœuds de la loi divine, on les met justement là, à la frontière du désir intime, de quelque chose qui pourrait très rapidement s'affranchir de la loi. Et on nous dit, la chose la plus importante, c'est cette capacité d'être néeman, d'être fidèle à Dieu, justement au moment où il n'y a pas de regard extérieur, quand ce n'est pas social, quand ce n'est pas quelque chose qui obéit à une logique d'une disposition de ma personnalité par rapport à d'autres regards, à d'autres personnes. Quand je suis seul, dans ma maison, à ce moment-là, est-ce que j'allume un cours de Torah ou j'allume un truc complètement bidon pour détruire ma vie? Et donc on nous dit, faites très attention, la première chose, une maison doit être une maison où on reçoit la Torah, pas un endroit qui te permet de dispenser la Torah. C'est le premier niveau. Après, il dit une deuxième chose. C'est aussi, juste avant de passer, la notion d'une maison ouverte, d'une maison qui est comme un bétamigdash, qui va accueillir que l'habitat, que la façon d'habiter physiquement un espace, soit en même temps corresponde à l'habitacle de la Torah elle-même. Ça, c'est un très grand niveau où il y a une sorte de coextensivité, ça va ensemble, entre ma façon d'habiter et la façon dont la Torah habite. C'est-à-dire que les grands tzadikim, ils considèrent leur corps, ils considèrent leur maison, ils considèrent leurs biens comme des éléments du Beit HaMikdash, du Temple de Jérusalem. Le Temple de Jérusalem étant l'espace parfait, rédimé, l'espace où il n'y avait pas d'injustice, l'espace parfait, comme avant la faute du veau d'or et comme après le Mashiach. Celui qui se trouvait dans le Temple de Jérusalem avait la possibilité d'accéder à la dimension messianique, totale. Messianique totale. Et donc, messianique au sens où il n'y a plus de distorsion entre l'espace, le réel et la vérité. L'exil étant toujours le fait qu'il y a une distorsion entre la vérité et la réalité. Le Mashiach, c'est quand il y a une harmonie entre la vérité et la réalité. Et donc l'espace joue un rôle très important, parce que quand on donne un espace qui présente la vérité, qui est le lieu de l'habitacle de la vérité, c'est un lieu messianique. Il y a des moments messianiques, comme les Yom Tov, comme le Shabbat, qui sont des anticipations temporelles d'une dimension du temps qui porte en elle, en germe, l'essence messianique. Et il y a aussi des espaces messianiques. C'est des espaces qu'on a accommodés absolument selon la volonté de Dieu, qui donnent à voir une façon d'exister magnifique, qui n'est pas polluée ni détruite par les forces extérieures. Donc sa maison, le but du juif authentique, c'est d'essayer de créer dans sa maison un espace poétique, un espace de beauté, un espace de célébration de la vérité qui passe par l'accueil des sages, par le fait que ça soit un endroit où on réfléchit, où la Torah apparaît. Et ça, c'est pas forcément en organisant des cours. Ça peut être à une table de Shabbat. L'intérêt, la dynamique de cette table, c'est pas de manger comme un bois, boire, se saouler, dire des bêtises et dire des âneries. La dynamique de cette table de Shabbat serait un moment merveilleux où le père, la mère, les enfants, les invités réfléchissent ensemble au sens de concept de vérité de Torah. Ça devient, à ce moment-là, la maison devient vraiment un Beit Vad Lechachamim, un lieu d'accueil de l'intelligence, qui donc rend à cet espace une dimension messianique magnifique. Donc ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, dit le texte, Vehe ve mitahabe Afar Aglehem. Que tu sois collé à la poussière de leurs pieds. Alors pourquoi cette image? Alors ici on nous dit une chose très importante. On nous dit d'abord le rapport aux sages, c'est très important. Que ce qu'il y a de plus bas chez eux, le Maharal de Prague explique, que la poussière des pieds, c'est ce qu'il y a de plus chafel, le plus bas. Or, ce plus bas chez les sages sera toujours plus haut que nous-mêmes. Notre plus grande hauteur spirituelle sera toujours plus basse que la poussière des pieds d'un tzaddik. Il y a dans la poussière des pieds des tzaddiks un filet d'étoiles spirituelles plus haut que les lourdeurs spirituelles de quelqu'un de moyen. C'est comme ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire trois choses. Ça veut dire d'abord que le tzaddik est capable d'introduire de la lumière sainte jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des ongles de pied, jusqu'au bout des poussières qui sont en bas de ses plans du pied. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est ça qui est important, de voir dans le tzaddik. De voir dans le tzaddik, c'est pas simplement voir sa Torah, voir son esprit, voir sa parole, voir même son cœur, comment il aide les gens. C'est de voir comment dans sa matérialité la plus basse, ça s'appelle Shimush. Shimush est Tamid Chachamim, de servir les Tamid Chacham. Et la Gemara nous dit, Shimusha Yotem Talmudea. J'ai appris plus de mon Rav en vivant avec lui, en regardant comment il va aux toilettes même, en regardant comment il mange, que qu'est-ce qu'il fait avec son corps, qu'est-ce qu'il sait faire avec ses vêtements, qu'est-ce qu'il fait avec la poussière de ses pieds. J'ai appris de lui plus qu'en étudiant sa Torah. C'est extraordinaire comme phrase. Ça voudrait nous dire qu'il y a, que le grand secret du tzaddik, des sages d'Israël, c'est qu'ils sont capables de donner un sens métaphysique, un sens spirituel à la matière, à ce qui est le plus bas chez l'homme. Et qu'il n'y a pas quelque chose dans la dimension de la création qui échappe au sens de la lumière divine. Et ça, c'est un niveau très profond. Parce que c'est pour ça que Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde parce qu'il veut que sa lumière divine atteigne des dimensions de matérialité opaque qui normalement devraient se refuser à la lumière divine et qui par l'acte du tzaddik accueille la lumière divine. Et plus on amène la lumière divine dans l'obscurité, plus cette lumière brille plus intensément. Il y a donc dans la lumière des poussières des sages peut-être plus que de lumière que dans la parole de Torah qui est déjà une lumière absolue en haut. Mais une lumière qui reflète, qui est encore que l'écho premier de ce reflet. Alors que quand cette lumière investit la profondeur de la matière, elle donne un sens à la vérité qui est inouï, inaudible par les anges eux-mêmes. Et donc on nous dit, colle-toi, écoute, essaie de te rattacher à cette dimension du tzaddik qui est capable de spiritualiser la poussière, qui est capable de prendre la chose, la poussière, ça veut dire que c'est même pas de la matière, c'est une matière décomposée, c'est quelque chose qui n'a plus aucun sens. Celui qui est capable de donner du sens à ce qui n'a plus aucun sens. C'est ça le secret de du sage d'Israël. C'est-à-dire c'est le secret d'Israël lui-même. Parce que quand le peuple juif a traversé la mer Rouge, on dit que les eaux se sont figées, et le Ankelus traduit cela en disant que les mayas itrakmu, elles sont devenues intelligentes. L'eau qui est de la matière a pris des formes intelligibles. Ce serait ça l'événement même d'être juif, de la libération, de la révélation. Ça serait de donner à ce qui est mort, qui se tait à la matière brute, à quelque chose qui semble avoir aucun sens, c'est de lui donner un sens. Parce qu'il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de création qui ne sont pas aussi une révélation. Puisque tout est créé par Dieu, et donc il n'y a pas une chose, même la plus basse, qui ne révèle pas un message divin que le tzaddik est capable d'élever et de transformer des poussières sous ses pieds comme des poussières d'étoiles de comètes dans la beauté de l'espace. Et c'est ça que le juif se doit d'approcher d'avec. Troisième dimension, d'aveshoté betzama et d'ivrem, et boit leurs paroles assoiffées. Et là, c'est une dimension très importante. C'est être assoiffé. Être assoiffé, ça veut dire, c'est une notion, malheureusement, qui aujourd'hui nous manque énormément. Être assoiffé, c'est la notion du désir de vérité. C'est un très grand problème. Il y a 30 ans, et il y a 40 ans, il y a 30 ans, quand il y a le mouvement de la Teshuvah, beaucoup de juifs étaient athées, beaucoup de juifs étaient communistes, beaucoup de juifs étaient libertaires, anarchistes, marxistes, maoïstes, tout ce que vous voulez. Mais au moins, ils avaient tous l'envie de comprendre. Et quand ils voyaient un rabbin qui venait discuter avec eux, c'était le feu de la discussion. Et si on était capable de montrer à quelqu'un que la Torah était plus forte que les chimères que bolcheviques, la personne faisait tchouva. Il y a eu énormément d'exemples de gens qui ont fait tchouva, qui ont fait un itinéraire de la gauche radicale à l'orthodoxie radicale. Pourquoi ? Parce que ce qui primait, c'était la recherche de la vérité. Et donc l'erreur dans laquelle ils étaient tombés, c'était au nom de la vérité. Donc il suffisait de leur montrer une vérité pour que cette vérité les attire. Parce qu'ils étaient assoiffés de vérité. Aujourd'hui, dans des nouvelles générations, on se confronte à un problème beaucoup plus grave, où les gens, vous leur dites Torah, et vous dites très bien, la Torah c'est magnifique, mais écoutez, j'ai quand même mon match de foot ce soir, mon film à regarder à la télé, et la discothèque qui m'attend pour aller faire des bêtises. Avant, ça n'existait pas, ça. Quelqu'un qui dit la Torah c'est vrai, mais ça ne m'oblige pas. Avant, si la Torah est vraie, je suis obligé. Et je vais essayer de prouver que la Torah n'est pas vraie, mais si elle est vraie, je suis obligé. Aujourd'hui, non. La Torah est vraie, ça ne m'oblige à rien. C'est la catastrophe. C'est la dégénérescence de l'humain. Quelqu'un qui a compris qu'une idée est vraie et qui ne vit pas selon cette vérité, c'est qu'il a un mépris total pour lui-même. C'est devenu de la matière, presque un animal. C'est-à-dire qu'il ne va que d'après ses désirs. Ses désirs sont plus forts que son cerveau. C'est une catastrophe. C'est une horreur. C'est-à-dire que l'homme est descendu et défini à partir du corps, plus à partir de l'esprit. Catastrophe. Et donc ici, le Pirkei Avot nous dit attention, attention. Soyez assoiffés de vérité. Ça ne suffit pas d'aimer la vérité. Ça ne suffit pas de croire en la vérité. Ça ne suffit même pas d'aller écouter des cours de vérité, d'y adhérer, de dire c'est merveilleux. La Torah c'est beau, ça ne suffit pas. Si cette Torah ne réveille pas en toi un désir de vérité, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche de façon terrible. Non, qu'est-ce qui cloche de façon terrible? C'est très simple. C'est que l'homme, Adam, c'est l'anagramme de Méod. Méod, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que l'homme est plus que ce qu'il est. L'homme n'est pas complet, dit le Maharal de Prague. L'homme, depuis la faute du Vaudor, est brisé. Il n'est que la moitié de lui-même. Il est bâillé. Il a besoin d'autre chose que lui. Et la Torah est ce baume divin qui pense les plaies de l'âme, qui donne à ce qui manque, qui comble ce qui manque, et ceci de façon infinie. Donc quelqu'un qui goûte à la Torah, il goûte à la possibilité de plénitude, de retrouver cette plénitude qui a été brisée en lui, qui a été cassée en lui. Et donc, quand on goûte à la Torah, comme quelqu'un qui a soif, il lui manque l'eau que le corps, dont le corps a besoin pour être en plénitude, pour être en santé. Quand quelqu'un est en contact avec sa neshama, il a soif, parce que la neshama est brisée depuis la faute du Vaudor, depuis la faute d'Adam Arishon, depuis la faute du Vaudor, depuis la faute que chacun ait pu commettre. Donc il a besoin de retrouver sa plénitude, il a besoin de retrouver ses dimensions d'infini qu'il a perdu et il a sombré dans la finitude. Il veut retrouver cet infini qui est en lui. La Torah est l'instrument qui réintègre, réinjecte dans l'homme la dimension d'infini. Et donc, bien entendu que ça doit être une soif terrible, une soif absolue par rapport à la Torah. Et c'est ce que dit le texte. Troisième chose, sois assoiffé de Torah. Et si t'es pas assoiffé, pose-toi la question sur toi-même. Ça veut dire que tu ne te connais pas toi-même. Ça veut dire que tu es complètement à côté de la plaque de ce que tu es vraiment toi-même. Ça veut dire que tu n'as jamais touché à ta neshama. Que ta neshama est tellement en exil, tellement loin de toi, que la vérité, ça ne t'intéresse pas vraiment. Pourquoi ? Parce que tu es réduit à ta peau. Tu es réduit à ton extériorité, tu es réduit au regard des autres, tu es réduit à l'instrumentalisation que la vie a façonnée en toi, à ton travail, à ta famille, à ta petite réussite, à l'argent. Tu as abandonné la grandeur qui est en toi, elle est en exil. Mais si on se rend compte de cela, alors à un moment donné, il y a un sursaut de re-estime de soi-même. Et à ce moment-là, c'est la soif. J'ai commencé à me connecter avec cette part de moi-même qui est la vérité de moi-même. Mais elle est complètement délabrée. Il n'y a que la Torah qui peut la réparer. Et donc, quand j'étudie la Torah, ça me reconstruit. C'est quelque chose qui m'amène à la vérité de moi-même et qui pense la blessure de la finitude, et qui me redonne cette dimension d'infini qui est la dignité même de l'homme.